une création.
Blast.
Anima, un podcast de Loulou Robert, réalisé par Vincent Deck. Une vache dans un champ, un oiseau sur une branche, une tranche de jambon, un chat sur le canapé, les animaux. On les caresse, on les élève, les apprivoise, on les aime, on les tue, on les mange. On est tous liés d'une manière ou d'une autre à eux. Anima veut questionner notre rapport aux animaux, la manière dont on les traite, les considère, pour mieux nous comprendre nous-mêmes. Car après tout, nous sommes tous des animaux, des êtres vivants qui ont en commun l'anima, à savoir le principe vital, le souffle de la vie. Épisode 5, le combat pour le vivant.
En France, on tue 35 animaux chaque seconde dans les abattoirs. L'association L214 amène cette problématique sur la place publique. Silhouettes d'animaux tracés au sol, rubans de signalisation ou encore faux sang, tout le décor d'une véritable scène de crime. L'objectif, interpeller sur les conditions...
Se battre. Dernière étape de ma traversée. Se battre comme L214 pour le vivant. Parce que tant qu'il y a de la vie, que les cœurs pulsent, que les arbres poussent, les oiseaux chantent, tout n'est pas perdu. Pour ce dernier épisode, j'ai voulu montrer qu'il était possible de changer les choses. Certaines personnes considèrent les animaux comme leur égaux. Elles ont décidé de dédier leur existence à la cause animale. Elles luttent au quotidien pour sauver des vies, transformer le regard des gens sur les animaux. En faisant entendre leur voix, je ne cherche pas à culpabiliser. Au contraire, je veux montrer qu'on peut tous s'améliorer, moi la première. Par moments, il m'arrive de penser « à quoi bon ? Rien ne changera. » L'horreur continue. Le business de la viande ne cesse de croître. De nouveaux élevages intensifs voient le jour, toujours plus grands et plus terribles. Il serait plus facile de laisser tomber, de m'en foutre. Je visualise alors les animaux en liberté tout autour de moi, et je retrouve la force et l'envie de continuer le combat, à mon échelle, avec mes armes, mes mots. J'ai longtemps pensé que mon extrême sensibilité était une faiblesse, mais c'est le contraire. Elle est une force. Elle me relie aux autres, humains, animaux, et me permet de voir la beauté tout autour de moi. Brigitte Gauthier, la fondatrice d'L214, ne cesse de lutter au quotidien pour que cette beauté ne meure pas. Et même si certains jours, c'est sûrement plus dur que d'autres, elle n'abandonne pas.
Tu te sens... impuissante des fois, on sait pas.
Alors comment on se le sentirait pas impuissant? On tue en France 3 millions d'animaux par jour, d'animaux terrestres, pour la consommation de viande. 80% d'entre eux viennent d'élevage intensif, des conditions de vie assez atroces quoi. Donc oui, un sentiment d'impuissance et à la fois de l'espoir ancré. Et puis d'être dans l'action, c'est-à-dire d'essayer de trouver les moyens d'alerter, d'essayer de trouver les moyens d'exposer des solutions, d'essayer d'offrir une vision qui est optimiste de l'avenir. Si on ne mange plus les animaux, c'est pas la fin de l'humanité, c'est pas la fin du bien manger, c'est peut-être un monde qui est moins violent, qui est attentif aux uns et aux autres, vraiment d'essayer de montrer la résilience du monde, justement, si on prend un chemin différent de celui d'aujourd'hui. Et donc, ouais, ça s'apporte parce qu'on a envie de partager l'enthousiasme d'une vie future, peut-être meilleure, avec j'ai envie de dire, la sincérité abolitionniste. Vraiment, si on prend les animaux au sérieux, on ne peut pas les considérer comme de la nourriture, comme du matériel de laboratoire, comme des objets de distraction, mais vraiment comme des cohabitants de notre planète, comme des personnes à part entière, et avec le désir de faire avancer les choses là où on peut les faire avancer, donc faire reculer le pire, et puis essayer de montrer qu'on peut aussi diminuer le nombre d'animaux tués au fur et à mesure en ayant une alimentation qui est très peu pratiquée en France, hein, l'alimentation 100% végétale, de montrer que c'est bon, qu'on se régale autant... Je pense qu'on peut créer un mouvement qui est très très fort pour faire bouger les choses, quoi. Et c'est le sens de ce qu'on porte avec L214. Alors nous, on est pour le zéro animaux tués pour être mangés, mais on va porter que d'ici 2030, on tue moitié moins d'animaux qu'aujourd'hui. C'est hyper ambitieux, mais pour nous, Enfin, on le voit, les catastrophes climatiques, elles sont de plus en plus nombreuses. Enfin, à un moment, en tant qu'humanité, on va peut-être bien percuter en se disant, bon, on pourrait peut-être arrêter de scier la branche sur laquelle on est, quoi. Je veux pas, je refuse ça. Bon, bah, qu'est-ce que je fais ? Enfin, voilà, je passe à l'action. Je fais quelque chose pour que ça s'arrête. Parfois, la colère, elle peut nous amener à chercher des coupables. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on est tous responsables de ce qui se passe. Alors, il y en a peut-être qui ont plus de pouvoir que les autres, mais quelque part, tout est interconnecté. Donc, l'idée n'est pas de chercher des coupables. Ça ne va pas être les ouvriers d'abattoir, ça ne va pas être les éleveurs. Il va falloir aller chercher plutôt du côté des mastodontes de l'agroalimentaire, ultra puissants, et qui vont fabriquer du doute. Donc là, oui, on a à faire de la mobilisation de l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui se disent non, ça, c'est pas possible. Dans les choses qui ont avancé, par exemple, avant qu'on crée L214, la question des animaux qui sont élevés pour la viande, cette question n'était absolument pas dans le débat public. Aujourd'hui, elle est dans le débat public. Quand on parle de protection des animaux, de défense des animaux, on parle aussi de ces animaux-là. Et ça, c'est un changement hyper fort de considérer que c'est légitime de mettre dans le débat public le sort de ces animaux-là, non seulement sur leurs conditions d'élevage, mais aussi de soulever la question de « faut-il manger les animaux ?» On peut poser cette question, on peut débattre de cette question. On ne va pas forcément être tous d'accord, mais en tout cas, on peut en débattre. Après, on s'est concentré aussi à faire reculer certaines pratiques.
Des poules en cage, des charnées, des plumées, au milieu de la crasse et des parasites. Ces images font choquer l'opinion. Elles ne reflètent pas les méthodes de toute une profession, mais elles ont eu des conséquences directes dans les supermarchés. En quelques mois, les ventes d'œufs de poule en batterie ont chuté de plus de 6%.
Quand on a commencé cette campagne, 2008, 80% des poules pondeuses étaient en cage en France. Aujourd'hui, ce chiffre, il est descendu à 27%. Ça veut dire qu'on peut avoir un pouvoir sur ces industries. Puis après, on s'est dit, des animaux qui souffrent beaucoup, c'est aussi les poulets. Et du coup, on a, avec une trentaine d'organisations internationales, l'European Chicken Commitment, alors, qui réduit les souffrances des animaux. C'est-à-dire qu'on va demander à bannir certaines souches à croissance rapide, qui font que les poulets grossissent 4 fois plus vite qu'en 1950, avec des graves problèmes de santé. On va leur demander à ce que les densités baissent. Aujourd'hui, c'est 20-22 poulets par mètre carré. On va leur dire, pas plus de 15, ce qui est encore beaucoup. Hein. Enfin, c'est vraiment des petites avancées, mais du coup, des avancées réalisables. Et là, on a, pareil, l'ensemble des supermarchés qui se sont engagés. Puis là, on a commencé aussi sur les cochons. Pareil, la fin des mutilations, la question des densités aussi, combien de cochons par mètre carré, etc. etc. C'est rendre moins pire. Au niveau politique, on a obtenu la fin du broyage des poussins. Ça fait quand même 35 millions de poussins qui sont normalement pas broyés chaque année. Il faut qu'on aille vérifier que ce soit réellement pratiqué. Mais en tout cas, c'est interdit aujourd'hui. Voilà, la fin de la castration à vif des porcelets aussi, c'est passé dans la loi. Il y a eu les menus végétariens dans les cantines. Voilà, il y a des avancées qui se font. Éradiquons les pratiques les pires, déjà. Et on fait reculer.
Je fais souvent le vœu d'abolir la souffrance animale. J'ai conscience que mon souhait ne se réalisera pas demain. Mais comme le dit Brigitte, on peut faire reculer le pire. La cause animale est au cœur de mon prochain roman. Par le biais de la fiction, je tente de diffuser le message, de lever le voile sur les violences faites aux animaux. À la fin de mon livre, je remercie L214 de m'avoir ouvert les yeux. Je suis la preuve que leurs actions fonctionnent. Sans eux, ce podcast n'existerait pas.
Manifestations, images choc, les associations animalistes font de plus en plus parler d'elles. Ces deux trentenaires sont salariés de l'association L214 la plus active en France. Et ce jour-là, ils viennent à Rungis avec un objectif, à eux deux, faire plier l'enseigne système U.
Ce qu'on leur demande, c'est de s'engager à vraiment éradiquer les pires pratiques de l'élevage intensif de poulets de chair. Je ne sais pas si on peut dire qu'on met la pression, mais nous, c'est sûr qu'on a une attente très forte pour qu'ils s'engagent.
1h15 de réunion dans ces bureaux. Interdiction pour nos caméras d'assister aux échanges. 15 jours plus tard, Systemus s'engage à améliorer les conditions d'élevage des poules et de sa marque distributeur d'ici 2026. Le responsable communication reconnaît que sans les multiples relances de L214, l'entreprise ne serait pas allée aussi vite sur le sujet. Dans cette guerre d'idées et d'images, les associations animalistes ont sans conteste réussi à gagner en influence.
On arrive à faire des changements rapides. On peut le faire, voilà. Mais il faut le déclencheur.
Et le déclencheur, c'est les images ?
Alors ça en fait partie. Il y a les images, bien sûr, parce qu'elles sont ancrées ici et maintenant. C'est en train de se passer maintenant. Est-ce qu'on veut être caution de ça ou est-ce qu'on ne veut pas ? Et donc, est-ce qu'on veut se diriger vers autre chose ? On fait des sondages et des choses. Effectivement, on a 9 personnes sur 10 qui disent « Non, les élevages intensifs, c'est pas possible ». Ce qui n'empêche pas qu'après, dans les actes d'achat, on est dans un environnement, dans une offre alimentaire qui nous pousse à consommer ces produits-là. Mais justement, est-ce qu'on ne peut pas changer ça ? Ça va être les campagnes qu'on va faire dans les prochaines années. Convaincre les supermarchés de changer l'offre alimentaire. Convaincre les restaurants de changer l'offre alimentaire. Que ce qui soit accessible, que ce qui soit facile, ce soit de ne pas manger ces animaux qui sont dans des positions absolument terribles. Donc effectivement, il y a la force des images, mais il y a la force aussi des arguments, des études scientifiques qui toutes, grosso modo, mis à part celles où il y a des conflits d'intérêts, j'ai envie de dire, toutes convergent vers le fait de dire « ouais, il faut vraiment manger moins de viande ».
J'entends les voix dans ma tête me dire qu'à cause de moi et des autres végétariens, des paysans vont faire faillite et se suicider. Elles me racontent que je mets ma santé en danger, que je vais devoir arrêter le sport, que je vais perdre ma vie sociale. Elles disent que je fais ma bobo, que je suis une tendance, que je suis devenue chiante. Très bien. Si décider de ne plus manger d'animaux morts, c'est être chiante, alors ça me va, je suis chiante. Mais laissez-moi dire que je me sens beaucoup mieux aujourd'hui, sans la culpabilité et la honte, que je fais 4 heures de sport par semaine, que je ne perds pas mes cheveux, que j'ai des amis, que quand je passe devant un champ, je ne crains plus de regarder une vache dans les yeux. En résumé, être végétarienne n'a pas rendu ma vie plus compliquée. Au contraire, je suis enfin à ma place.
En fait, il y a 2 considérations. Si on considère la question des animaux, on arrive à 0 animaux tués. Du point de vue des animaux, ce qui est le mieux, c'est vraiment de leur laisser vivre leur vie. Si on parle du point de vue environnement, santé, conditions sociales, réduire peut suffire. Et donc là-dessus, on peut déjà être d'accord, parce que les gens, réduire leur consommation de viande, oui, pourquoi pas. Et peut-être le schéma de pensée qu'on peut avoir, c'est de se dire, une fois qu'on aura diminué, ça veut dire qu'on va manger davantage 100% végétal, un repas sur 2, etc. On se rendra compte que ça le fait, quoi. Et donc, pourquoi pas passer à 0 aussi, quoi.
Je suis végétarienne, mais je devrais être végane. Je ne suis pas cohérente, pas encore prête à lâcher certains plaisirs. La plupart des gens disent vouloir le bien, mais ne souhaitent pas faire l'effort qui y mène. Renoncer à un plaisir semble parfois impossible. Manger de la viande, passer un moment de convivialité autour d'une table, pour certains, c'est plus qu'un simple plaisir. C'est le fondement de ce qu'ils croient être. Il faut tout déconstruire. C'est long, beaucoup trop long. Et les animaux n'ont pas le luxe d'attendre. Quand je me projette dans une dizaine d'années, je m'imagine quitter la ville pour monter mon refuge pour animaux. Je ne sais pas si je serai un jour capable de réaliser ce rêve. En attendant, j'y pense le soir dans mon lit. Je trouve le sommeil dans cet endroit, loin des hommes, entouré d'animaux. Et je m'endors en les sentant vivre en moi.
Pas dégoûter des humains, toi, des fois ?
Non, je n'ai pas rencontré beaucoup d'humains qui sont complètement indifférents au sort des autres. Je pense que d'une façon ou d'une autre, ils gardent de la compassion, de l'empathie et tout ça, et que quelque part, il faut aller souffler sur des braises pour raviver cette flamme, mais qu'elle existe, quoi. Enfin, elle est là, et... Ça peut arriver de se rouler en boule et de se dire « punaise, mais c'est pas possible que ce soit comme ça ». Et il y a beaucoup de peur aussi, la peur du changement, des choses comme ça. Et comment les rassurer, comment réussir à s'adresser à ces personnes qui pourraient être impactées d'un changement radical, mais leur montrer que justement cet impact ne sera pas négatif pour eux. Il sera aussi positif. Je crois qu'il y a une partie aussi du fait d'où je tire ma force finalement, c'est les nombreux soutiens que peut avoir L214 et qui témoignent de leur soutien en disant « bah merci d'aller chercher les images, merci de montrer, merci de vous battre, merci de vous exposer », etc. Donc ça, c'est une partie. Et puis, je pense que le moteur, moi, enfin, en tout cas, ce qui m'a bougé au départ, c'est mes enfants, en fait. Je pouvais pas rester sans rien faire. Je me serais sentie mal par rapport à mes enfants, parce que on mangeait pas les animaux, mais le fait de ne pas se bouger pour empêcher que ça continue d'arriver, enfin, juste ne pas entrer en résistance contre l'industrie de la viande, enfin, je me serais perçue comme lâche.
Brigitte et tous les membres de son association sont aux antipodes de la lâcheté. Ils osent regarder le réel et luttent pour le changer. Pas pour un besoin de reconnaissance, mais pour rendre ce monde meilleur. J'espère tendre un peu plus chaque jour vers ce courage-là. Contrairement à Brigitte, je n'ai pas d'enfant. Je ne serai jamais une maman d'homme. Pour la plupart des gens, une maman d'homme doit faire passer le bien-être de son enfant avant celui des animaux. Une maman d'homme sauvera son enfant plutôt que son chien. Ce ne sera pas mon cas. Je ne veux pas de filles ou de garçons, mais des animaux. Et tant pis si on pense que je disjoncte. Pour moi, un animal mérite autant le respect, l'amour et la bienveillance qu'un humain. De ce fait, d'après Aymeric Caron, député du Parti Révolution écologique pour le vivant, je crois que je suis antispéciste.
L'antispécisme est donc le contraire du spécisme, et le spécisme, c'est une manière de considérer le monde qui consiste à classer les animaux sensibles en plusieurs catégories et en gros à considérer qu'il y a des animaux auxquels nous, humains, nous devrions faire attention, des animaux dont nous devrions prendre soin, puis d'autres animaux, en revanche, qui peuvent être considérés comme des objets, sans pour autant qu'il y ait une justification valable, cohérente, qui le justifie. Ça veut dire que, par exemple, vous allez prendre un chien et un cochon qui ont à peu près les mêmes caractéristiques d'intelligence, les mêmes caractéristiques physiologiques, et même d'ailleurs, d'un point de vue physiologique, le cochon est plus proche de l'homme que le chien. Et pourtant, on va considérer que le chien, en l'occurrence, doit être traité comme quasiment un membre de notre famille. On l'emmène chez le vétérinaire s'il a un bobo, on l'emmène en vacances. Évidemment, on est très triste si jamais il lui arrive quelque chose. Et puis l'autre animal, le cochon, eh bien, lui, il est traité vraiment comme un objet qu'on consomme sans penser un seul instant que c'est un être vivant, sensible, qui souffre et qui n'est pas fait pour ça, être mangé. Donc ça, c'est du spécisme, c'est-à-dire quand on fait un tri complètement subjectif entre les êtres vivants. Autre expression du spécisme, c'est de considérer que nous, les êtres humains, qui sommes des animaux, nous serions au-dessus de toutes les autres espèces animales et qu'en gros, tout ce qui nous arrive à nous est plus grave que ce qui peut arriver à un autre animal. Si nous, on se prend un coup de poing, ben, ça nous fait souffrir, on n'est pas content, mais on va considérer que si c'est une vache, que si c'est un singe, bon, c'est moins grave. C'est considérer que nous, quand on est enfermé, ça nous fait souffrir et effectivement, on a des raisons de s'en plaindre, mais que de mettre un gorille ou un orang-outan dans une cage, ça, c'est pas grave. Tout ça, c'est du spécisme. Donc, l'antispécisme, c'est un mouvement de pensée, une philosophie qui considère qu'on ne peut pas tolérer la discrimination d'un animal en raison de son espèce.
C'est donc ce que je suis, antispéciste dans l'âme, en devenir dans mes actes. Les mots ont leur importance. Je ressens une éclaircie dans ma tête, mon corps. Nous sommes tous des animaux. Cette phrase est à l'origine de ce podcast. Elle prend toute son ampleur ici. Ça peut paraître dingue et extrême pour beaucoup de personnes, de penser qu'un être animal, comme un pigeon, une souris ou un poisson, mérite autant de vivre qu'un être humain. Mais si on remplace le mot humain par vivant ou sensible, alors ça fonctionne.
Être antispéciste, ça ne veut pas dire qu'on considère que les humains sont égaux en tout point aux animaux non humains. Être antispéciste, c'est s'insurger contre des injustices qui sont faites aux non-humains. L'idée n'est pas de dire tout le monde est pareil, tout le monde fait la même chose. On ne veut pas donner un droit de vote aux vaches, par exemple, quand on est antispéciste. En revanche, on veut que les besoins naturels de chaque individu, de chaque espèce, puissent être respectés, en tout cas qu'on ne les entrave pas. Si on voit que si on prend un animal qui a besoin de faire 10 km dans la journée, bah pourquoi nous, on mettrait cet animal dans une condition inverse? Si un animal a besoin de vie sociale, ce qui est le cas, il y a beaucoup d'animaux sociaux qui ont besoin d'interaction avec des congénères, pourquoi nous, humains, on les placerait dans une position où ce n'est pas le cas? Si un animal peut vivre 15 ans, pourquoi nous, humains, on décréterait que cette vie doit s'arrêter au bout de 4 mois parce qu'on veut les bouffer? C'est absolument inacceptable. Et surtout que la question qui se pose, c'est ai-je besoin de le faire? Donc, il y a une caricature qui consiste à dire « Oui, mais attention, les antispécistes, pour eux, un chat, c'est comme un humain, et un chat, c'est comme une souris, et c'est comme une fourmi, etc. » Non, on ne dit pas que c'est la même chose, ou que c'est le même individu, parce que ce n'est pas une chose. On dit simplement que chaque individu de chaque espèce, déjà le simple fait d'admettre que les animaux qui composent un groupe, qui sont des membres d'une espèce, sont des individus, c'est déjà un grand progrès par rapport à la vision qu'on a souvent des animaux. C'est-à-dire que si on me dit, tiens, voici un troupeau de vaches, c'est pas 1000 vaches de manière indéterminée, c'est pas une quantité vache, quoi, c'est pas des oranges, ce sont des individus. C'est-à-dire que chaque vache de ces 1000 vaches a sa propre perception au monde. Chaque vache de ces 1000 vaches va éprouver de la douleur, du plaisir, va avoir un caractère différent de la voisine, et ainsi de suite. Et surtout, chaque vache travaille à la poursuite d'elle-même, et a le même vouloir vivre. Non seulement que ses congénères, mais que toi et moi. Et donc, l'antispéciste se dit, pourquoi nous on a ce droit-là, qui est respecté par un certain nombre de textes, même si ces textes législatifs sont souvent contredits par la réalité. Mais en tout cas, moi je prône à titre personnel 4 droits fondamentaux pour les animaux non humains sensibles. Ce sont des droits qu'on appelle négatifs. Le droit de ne pas être tué, le droit de ne pas être emprisonné, le droit de ne pas être torturé, ça, je fais référence à la vivisection évidemment, notamment, et le droit de ne pas être vendu. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de raison qu'un animal non humain soit une marchandise. Parce qu'à partir du moment où tu tolères qu'on puisse vendre les chats, les chiens, les lapins, les grenouilles, tout ce que tu veux, bah, tu considères que cet être vivant sensible doit avoir une valeur marchande, et bah, tu commences la barbarie.
Pour celle que je suis aujourd'hui, c'est l'évidence. Je ne veux plus qu'aucun animal ne souffre. Je ne veux plus participer à cette barbarie. Mais dans le passé, je ne compte pas le nombre de fois où, de manière indirecte, sans y penser, je n'ai pas respecté ces 4 règles. Par égoïsme, je consommais de la viande sans penser à l'animal derrière. Par manque de curiosité, de volonté, je ne posais pas de questions sur la sensibilité de l'animal, ni sur la manière dont il avait été élevé. Aujourd'hui, je me renseigne sur la nature, les comportements et besoins de chaque espèce. Je ne me cherche plus d'excuses. Je laisse les toiles d'araignée décorer les poutres de mon appartement. Je souris face à un pigeon qui traverse la route. J'ai encore du chemin. Je dois continuer à me battre contre les autres et moi-même, mais je change. Ça fait rire autour de moi. Je suis devenue Loulou, la fille qui laisse les moustiques la piquer, des miettes sur la table pour nourrir les fourmis. Je préfère 1 milliard de fois être cette fille-là que celle que j'étais. Et ça me met en colère de constater que ma sensibilité, mon rapport aux animaux, soit considéré comme un délire, un truc rigolo dont on se moque autour d'un verre. Ce n'est pas rigolo. Pour moi, c'est vital. Je suppose que pour Aymeric Caron, c'est pareil, que la colère doit parfois être dure à contenir.
Je suis en colère, c'est une colère qui est contenue, mais en tout cas, il y a une indignation, il y a la révolte même face à toutes ces incohérences que moi j'appelle des absurdités, une cécité, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je vis dans un monde où la plupart des individus que je côtoie ne comprennent pas ce qui m'anime, ne comprennent pas mes logiques. Donc notre travail, c'est de faire changer les mentalités. Le combat contre le spécisme, pour moi, c'est un combat qui continue d'autres combats moraux et sociétaux qui n'ont concerné que l'humanité au cours des derniers millénaires. Combat pour lutter contre l'esclavage, par exemple. Combat contre le racisme. Combat contre les discriminations faites aux femmes. Contre l'homophobie. L'idée étant à chaque fois de dire on se bat pour que chaque individu sur cette planète ait les mêmes droits que celui d'à côté. Voilà. Donc quand on se bat pour l'égalité des êtres, contre l'égalité de droit, eh bien, nous, on dit qu'il n'y a pas de raison qu'on s'arrête aux humains. On peut aller plus loin encore. On se bat également pour ne pas être discriminé parce qu'on est une vache et qu'on n'est pas un chien et qu'on est un chien et qu'on n'est pas un humain. Considérer que les changements n'arrivent pas assez vite. Mais bon, l'histoire de l'humanité, elle se fait sur des siècles et des millénaires. Donc, il faut bien considérer que nous, on fait juste un petit travail. On pousse un peu. Il y a des gens qui étaient là avant nous, qui ont déjà amené le sujet depuis très longtemps. Donc, moi et d'autres, on dit qu'il faut aller encore plus loin. Donc, c'est pour ça que dans l'hémicycle, je propose à l'Assemblée, je propose des textes pour les animaux qui surprennent encore tout le monde.
Mais par exemple
Là, on est en train de travailler sur le budget. Et nous, on propose plusieurs mesures qui permettraient d'aider les propriétaires d'animaux dits de compagnie, les chiens et les chats, de mieux supporter le coût financier de ces animaux pour lutter contre les abandons. Notamment puisqu'avec l'inflation, le fait de devoir payer de la nourriture, de la litière, des soins vétérinaires, ça a mis un certain nombre de gens dans la difficulté. Donc nous, on dit qu'il faut absolument qu'on trouve quelque chose, une solution pour faire en sorte que les refuges ne débordent pas encore parce que les gens n'ont pas d'argent pour ça. Donc on propose des mesures, voilà, que ce soit une réforme de la fiscalité, de la TVA, etc. On travaille sur un texte qu'on n'a pas encore le temps de déposer, mais sur les fourrières, où on aimerait que ce soit plus possible d'euthanasier un animal en fourrière. Parce que nous, on est vraiment omnubilés par l'idée qu'il y a trop d'incohérences dans la loi. Par exemple, un chat assis dans une famille qui s'occupe de lui. Ce chat a des droits, mais il n'a pas le droit d'être torturé. Bon. En revanche, ce chat, s'il se sauve, qu'il n'y a pas d'identification et qu'il se retrouve dans une fourrière, ben, il pourrait être euthanasié. Donc il faudrait qu'on m'explique comment le même individu, un mois plus tard, peut être euthanasié comme si sa vie ne comptait pas. C'est une incohérence totale du droit. Donc nous, on voudrait réformer ça et dire on interdit maintenant les euthanasies en fourrière. Sachant que des chats peuvent aussi se retrouver dans un laboratoire pour des expériences. Donc là encore, il faudra qu'on m'explique. Le lapin, typiquement, le lapin, il a au moins 3 ou 4 statuts différents. Le même individu lapin, selon qu'il est dans une animalerie, ou en tout cas dans un élevage destiné aux animaleries, ou dans une maison, ou dans un laboratoire, ou qu'il est en forêt. Ben voilà, d'un côté, on aura le droit de le flinguer avec un fusil si on est un chasseur. D'un autre côté, on pourra le torturer comme ce n'est pas permis dans un laboratoire. En revanche, si c'est dans une maison, eh ben, dans ce cas-là, il est interdit de le blesser ou de lui faire du mal. Donc tout ça n'a aucun sens. Donc ça fait partie des énormes incohérences du droit sur lesquelles nous, on travaille, même si on est extrêmement limité dans nos moyens, d'abord parce qu'on est très peu à travailler sur le sujet, parce qu'on n'arrive pas à avoir de majorité à l'Assemblée, parce que... Mais bon, on est là. Donc hier, j'étais dans l'hémicycle en train de faire une intervention sur ce sujet. Ça fait avancer un tout petit peu les choses, je l'espère en tout cas, en bousculant un peu les esprits.
J'imagine Aymeric prendre la parole pour les animaux dans l'hémicycle. Comme ça doit être épuisant de se retrouver tous les jours face à des gens qui considèrent que l'homme est le roi du monde, qu'il peut continuer à tout brûler en toute impunité, à agir et détruire selon ses désirs. L'envie me prend de remplacer les visages humains de l'Assemblée par ceux des animaux. Ça soulage un peu, pas assez. Le réel et sa violence me rattrapent. Chasse à court, massacre de dauphins dans le golfe de Gascogne, corrida tolérée, tests sur les animaux autorisés, les renards sur la liste des nuisibles, augmentation de la taille des élevages intensifs en France. Je pourrais continuer, remplir des pages de toutes ces horreurs qui existent et sont encore aujourd'hui protégées par le droit français. Aymeric Caron et son équipe tentent de faire évoluer les choses. L'abolition de la corrida est l'un de ses combats. Ça paraît complètement dingue qu'aujourd'hui des gens prennent du plaisir à regarder le massacre d'un animal. C'est de la cruauté pure.
Alors la corrida, on a essayé de l'abolir.
T'as déjà assisté à une corrida ou...
Non, je n'ai jamais assisté à ces saloperies, je pense, en plus. Enfin, j'ai vu suffisamment d'images en vidéo. Sur les plateformes, on trouve toutes les images. qu'on voit vraiment en vidéo toute l'horreur qu'on ne voit pas forcément si on est dans une tribune un peu haut. Et donc on a voulu effectivement faire Abola Kouada il y a plus de 2 ans, mais malheureusement ce texte a été retiré au dernier moment et donc je n'ai pas pu le mettre au vote il y a 2 ans. J'avais redemandé à France Insoumise de le faire cette fois-ci puisqu'on a une niche qui arrive. La France Insoumise n'a pas refusé.
Pourquoi ?
Parce qu'ils ont considéré qu'il y avait d'autres priorités. C'est bien le problème d'être antispéciste dans une société spéciste et dans un personnel politique spéciste. C'est-à-dire que même pour des partis progressistes comme la France Insoumise, ils considéreront toujours, à la fin, qu'il y a un choix à faire. De toute façon, c'est humain. Et le problème, c'est qu'il y aura toujours quelque chose qu'on jugera plus important que les animaux. Donc aujourd'hui, l'argument est de dire « Oui, mais nous, on passe un texte pour abolir la réforme des retraites. » Pas que ça, il y a tout le pouvoir d'achat. Enfin, bref, il y a plein de sujets qui sont super importants et très importants à mes yeux également. Mais donc, ça veut dire que si on considère que parce que c'est des animaux non humains, ben, c'est pas aussi important que ce qui nous arrive à nous, ben, on ne pourra jamais, jamais rien faire avancer. Donc, à un moment, il faut juste avoir le courage de dire il y a plusieurs choses qui sont importantes. Et donc, ben, oui, on décide cette fois-ci de prioriser un texte qui concerne les animaux non humains. C'est comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'on considère que les sujets typiquement humains, doivent être négligés. Ça n'a aucun rapport.
On jouait souvent avec ma sœur au jeu de la fin du monde. Si on devait sauver 20 personnes, qui sauverions-nous ? Il y avait plus de personnes animales qu'humaines sur notre bateau. Parce que je préfère souvent leur compagnie à celle des humains, qu'ils m'émerveillent, me bouleversent, mais aussi parce que sans les animaux, sans les oiseaux, sans les vers de terre, sans les abeilles, sans les baleines, l'humanité ne survivrait pas. Les hommes pensent être les plus intelligents. Je suis certaine du contraire. Vivre en harmonie avec les formes de vie qui nous entourent, humaines, animales ou végétales, c'est selon moi la vraie définition de l'intelligence. Pour la dernière étape de ma traversée, je me rends dans un refuge pour animaux de ferme. Sur la route, je n'arrête pas de sourire. Je me rapproche un peu plus de mon rêve, d'un avenir possible. Le refuge s'appelle Groingroin. Il se situe dans la Sarthe et accueille principalement des cochons. J'ai échangé au téléphone avec sa fondatrice, Caroline, une humaine antispéciste, qui, avec d'autres personnes de l'association, offre depuis près de 20 ans le meilleur à des animaux qui jusque-là n'ont connu que la misère. Respect total. J'ai hâte de rencontrer ces animaux. Je sais qu'ils ne finiront pas à l'abattoir, que plus aucune souffrance ne leur sera infligée. J'avance donc vers Groingroin, le cœur léger. Cet endroit, c'est un peu ma définition du paradis. Caroline m'a raconté son histoire, le chemin qui l'a conduit à créer ce refuge.
J'ai vécu dans une maison où il y avait des chats et des chiens comme tout le monde. J'ai été prise de passion pour les poneys, les chevaux, l'équitation. Donc ça a été ma première partie de vie où je ne pensais que à ça. Et puis, un jour, j'avais 30 ans, je suis tombée sur un cochon nain dans un parc d'un château. Et une dame qui essayait de l'éduquer, je ne comprenais pas ce qu'elle faisait. Je l'ai jugée en me disant « mais cette dame est dingue, enfin, pourquoi elle essaye d'éduquer un cochon ?» etc. Ça me faisait rire et comme j'ai toujours beaucoup d'animaux, je me suis dit « oh allez, pour toutes les mauvaises raisons du monde, j'ai dit « allez, on se tente, j'ai une maison, j'ai un jardin, prenons un cochon et puis on verra bien ce que ça donne ». Voilà, donc ce petit cochon est arrivé dans ma vie et il a balayé toutes mes certitudes, tout mon rapport aux animaux, mais mon rapport à la vie en général. Et ça m'a fait changer ma vision même politique de la vie, quoi. Enfin, ça a tout chamboulé et tout vient d'un cochon. Je ne suis pas une grande littéraire ou une grande intellectuelle, mais là, j'étais obligée d'y aller. Je voulais comprendre. Je voulais voir s'il y avait des gens qui avaient théorisé sur la question. Du coup, j'ai découvert Peter Singer. Moi, pour moi, j'ai découvert l'antispécisme de façon... empirique, quoi. C'est-à-dire que j'avais le cochon, du coup je mangeais plus de cochon, puis après je me suis dit, mais enfin c'est un peu con, tu manges pas de cheval parce que tu montes à cheval, tu manges pas de cochon parce que tu as un cochon. Mais du coup, si tu avais une vache, tu mangerais pas de vache parce que la vache c'est quand même comme un cheval. Et pourquoi tu continues ? Et ça, j'ai découvert qu'en fait il n'y avait pas de différence que la espèce de ségrégation ou la différence qu'on fait basée sur l'espèce, elle est con, quoi. En fait, elle n'a pas de fondement, elle est que dans nos têtes à nous, c'est juste une construction débile. Ça a vraiment tout changé, quoi. Enfin, voilà, mon rapport aux autres, la façon dont traiter les autres, enfin, tout, quoi. Du coup, j'ai perdu pas mal de mes copains. J'ai arrêté de monter à cheval, parce que je ne pouvais plus du tout exploiter les chevaux. Mais voilà, et puis, du coup, j'ai décidé d'avoir un travail qui ait du sens. Je ne pouvais plus rester dans un travail sans sens.
C'était quoi ton travail ?
Bah, j'étais assistante de direction pour une boîte d'aéronautique. En fait, c'était juste pour pouvoir monter à cheval le midi. Donc j'ai dit, bon, bah, maintenant que j'ai un peu d'expérience professionnelle, et bah, autant mettre à profit l'expérience professionnelle pour une cause qui me tient à cœur, quoi. Mmh. Je monte le refuge. Je me suis dit, si moi, d'où je viens, alors que j'étais dans les pires configurations possibles, j'ai eu ce déclic vis-à-vis des animaux, bah, en fait, en l'expliquant ou en le montrant, bah, peut-être que les gens pourraient aussi l'avoir, ce déclic.
Et ça marche ?
Bah, écoute, ouais. Quand les gens viennent visiter le refuge, on envoie des petits questionnaires derrière pour savoir si ça a changé quelque chose, etc. etc. Puis après, tu as même des témoignages directs sur les réseaux sociaux, ou, voilà, en disant qu'en étant venu au refuge, en ayant rencontré Nala ou Eston ou Bountil Dindon, bah, ils ont pris conscience et que bah, du coup, ils sont en train d'arrêter la viande, quoi. Alors ça marche, je pense, sur une certaine population. Je pense qu'il faut plein d'assauts différentes, avec des messages différents. Tu as des gens qui ont besoin d'être dans les chiffres, un truc scientifique, à étayer, etc. Genre comme, tu vois, est-ce que fait L214 en expliquant comment ça se passe, les chiffres à la pluie, etc. etc. Puis tu as des gens qui ont besoin d'être touchés par le cœur, quoi. Donc un refuge, c'est bien pour ça. Parce que nous, on communique de façon positive, on ne culpabilise pas du tout. Les animaux, souvent sur les réseaux sociaux que tu peux voir au refuge, c'est dans des... On explique leur histoire passée, mais c'est anecdotique. En fait, on leur montre le quotidien et comment ils sont contents quand ils mangent leurs pommes le midi. Et je ne sais pas, Elidie et Ouini qui se font des gratouilles. C'est deux chevaux qui se font des gratouilles. Ils s'aiment beaucoup. Et ça marche bien. Et même sur des gens qui ne viennent pas au refuge, en fait. Rien que par les réseaux sociaux, tu touches des gens, quoi.
Convaincre par la beauté. En montrant de la douceur. Présenter l'animal comme un individu à part entière, avec sa personnalité, ses qualités. Lui donner ce dont il a besoin, le respecter. Montrer que c'est possible. Tenter d'éveiller les consciences des gens, faire appel à leur sensibilité. C'est ça, Gringoin. Et ça fonctionne. Ici, on ne raconte pas la souffrance animale, on ne diffuse pas d'images choquantes sur les réseaux. L'animal heureux parle par lui-même. Eston était le cochon emblématique du refuge. Il a touché un grand nombre de gens, et leur a permis de reconsidérer leur rapport aux animaux. Il est mort il y a quelques mois. Je me souviens de sa photo. J'aurais adoré le rencontrer.
On a eu différents des cochons au refuge, mais on a eu Eston qui était assez représentatif, et puis il avait une personnalité à part, parce que c'était un gros pépère qui arrivait toujours pour plein de câlins. Quand il te voyait, il se couchait sur le côté direct pour que tu lui fasses des gratouilles de bidon. Il était un petit peu ronchon, donc il faisait rigoler les gens. Il avait un physique un peu aussi rigolo, tu vois, attachant. Et puis surtout, son histoire, c'est un cochon d'élevage. Il était pour la reproduction. Et en fait... il a tellement touché les éleveurs qui l'avaient pour la reproduction qu'ils ont arrêté l'élevage et ils sont devenus véganes. Donc l'histoire en elle-même était assez emblématique, quoi. C'était une belle personne, Eston. Donc je ne sais pas comment le décrire mieux que ça, et il était vraiment, vraiment chouette. Et donc il est décédé à l'âge de 12 ans, ce qui est super pour un cochon de ferme, puisque en général, ils partent à l'abattoir à l'âge de 6 mois. Mais c'était important parce que les animaux de ferme... sont super pas considérés. C'est juste des marchandises, en fait. Personne, quand tu parles d'animaux ou de protection animale, les gens, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est chat, chien, quoi. Mais ils vont être outrés. Et moi, la première, sur un reportage sur un chien maltraité, pendant qu'on mange notre steak, tu vois, en même temps, enfin, voilà.
Comment vous faites pour les sauver, en fait ?
Eh ben alors, en fait, il y a autant d'histoires qu'il y a d'animaux refuges. Donc, tu as des cochons qui sortent directement de chez les éleveurs, bah, par exemple, comme Eston. Tu as des saisies administratives par la DDPP, c'est un peu le gendarme des animaux. Et comme l'État n'a pas de refuge officiel, enfin, il n'y a pas de... Donc, il s'appuie sur les refuges comme nous qui ne subventionnent pas. Et donc, il t'appelle pour te demander si tu peux pas récupérer tant d'animaux. Alors, donc là, il y avait des cochons, mais tu peux avoir plein d'autres animaux de ferme différents. Tu as aussi des animaux qui tombent des camions de transport. Donc, ça, c'est souvent pour les poules ou les dindons. Puis, tu as des particuliers qui vont aussi faire des sauvetages, mais qui se rendent compte qu'ils n'ont pas le terrain nécessaire, les connaissances suffisantes. Ça va bébé quand les animaux sont petits, mais après, ça se complique pour eux. Donc, ils cherchent un endroit pour leur offrir une vie sympa jusqu'à la fin de leur jour, quoi.
Ils arrivent traumatisés ou ils sont...
Ça dépend. T'en as qui sont plus résilients que d'autres. Il y en a qui restent traumatisés. Tu pourras jamais vraiment les réapprivoiser ou les toucher. Par exemple, on a Gertrude. On peut pas, quoi. On peut pas l'approcher. Mais c'est pas grave. On respecte, en fait, leur envie. Même quand on a des visites au refuge d'humains qui viennent visiter les autres animaux, on explique bien aux gens qu'ici, on est dans le respect. On n'est pas au zoo. Si les animaux n'ont pas envie d'être vus ou touchés, on n'y va pas, quoi. On les respecte. Par contre, on a Pelote et Bouloche qu'on n'a pas encore vu. Ces deux truilleneuses qui vivent ensemble, qui sortent d'un sauvetage qu'on a fait en 2020. Et elles vivaient dans, tu vois, les chenils pour chiens extérieurs. Ça doit faire 2 mètres par 2, quoi. Donc, elles étaient sous un auvent dans un chenil comme ça, en barreaux. Et il devait y avoir 1 mètre de caca en litière, en fait. Elles étaient en train de mourir de faim. Mais par contre, personne les avait maltraitées de façon physique volontaire. Ce qui fait que, quand elles se sont remplumées, elles sont devenues sympas et elles sont restées sympas.
Caroline m'a fait visiter le refuge. Pour la première fois depuis le début d'Anima, j'ai ressenti une joie immense. J'ai fait la connaissance de Bigoudi, un jeune cochon laineux. Je n'avais plus envie de le quitter. À un moment, une truie est sortie de sa cabane. Elle était immense. Caroline m'a expliqué que c'était la taille normale pour une truie adulte. J'ai croisé Gabi, une femelle cochon naine. Gabi est handicapée, à l'arrière-train bloqué. Une poule qui se prénomme Daisy se baladait à côté d'elle. Elles semblaient bien toutes les deux. Cet endroit est merveilleux. Il y aura toujours des gens pour critiquer, pour traiter Caroline et ses collègues de secte végane, pour se moquer des prénoms donnés aux animaux, pour tenter de gâcher, d'en les dire. Ils ne pourront pas y arriver. Allez rencontrer ces animaux, vous verrez. Les mots ne sont pas assez forts. Ce que j'ai ressenti était puissant. Ça m'a redonné de la force. Ce refuge est un remède à l'absurdité de ce monde, à la violence, au désespoir. La preuve qu'on peut changer les choses, espérer encore. Et tout ça, ça donne du sens. Tu l'as trouvé là-dedans, le sens.
C'est développer son empathie aux autres, au sens général, pas juste aux humains. On casse la barrière de l'espèce et on va aux autres animaux. On sort à peine... d'un truc où on voulait tellement différencier l'humain des animaux que dès que tu vas parler de ça, on va te dire que tu es d'anthropomorphisme. Oui. N'importe quelle personne qui a un chien peut voir que le chien, il y a des moments où il est content, puis il y a des moments où il n'est pas content. Enfin, je veux dire, tu vois, voilà. Bon, ça, ce n'est pas d'anthropomorphisme. En fait, ils sont comme nous. On peut voir, nous, au refuge, sur la mort des animaux, certains comportements qui sont totalement inhabituels. Donc, il y a un truc qui se passe. Il y a plein d'études qui démontrent ça, quoi. Ils ont des amitiés fortes. Deux cochons vietnamiens dorment ensemble dans la même cabane. Genre, ils se font déloger pour X raisons, parce qu'il y a un autre cochon qui arrive ou je sais pas quoi. Bon, bah, ils vont changer de cabane, mais ils vont pas changer de copain. Le fait de dire que c'est de l'anthropomorphisme, c'est d'essayer de mettre une barrière entre eux et nous pour qu'on se sente au-dessus de la meute et qu'on puisse mieux les exploiter, les maltraiter, etc. Par contre, en ayant un refuge où tu peux avoir un endroit où les gens rencontrent les animaux vraiment comme moi j'ai pu les rencontrer, là, tu te dis, tu peux les choper. Faut juste être patient et puis les gens, ils viennent, quoi. Ils prennent le temps, mais ils viennent à ces questions-là. Mais en étant positif, en communiquant de façon positive, en essayant de ne pas culpabiliser et de lâcher la colère, quoi. Moi, je reçois des gens qui abandonnent leurs animaux, j'aurais peut-être 10 coups de fil par jour. Oui, bonjour, c'est monsieur machin, je veux me débarrasser de mon... En plus, le terme débarrasser de mon bouc, vous pouvez le prendre, tu vois. Et puis sur ce ton-là, quoi. Bon, bah, Caro d'avant aurait pété la personne en lui disant, un, on parle pas comme ça ton animal, deux, enfin, tu vois, enfin, voilà. Mais en fait, à quoi ça sert? T'apprends à pas être en colère et à le dire de façon positive et gentille pour l'animal ou pour le message que tu veux faire passer. Et là, tu vois que le gars en question qui t'aurait donc raccroché au nez si t'avais été direct, finalement, il va prendre le temps de remplir le petit dossier dont t'as besoin pour avoir les informations, une photo, parce que t'as pas de photo, tu n'arriveras jamais à replacer l'animal en question. Il va prendre le temps de faire ça et t'as plus de chances de trouver une solution pour ton problème, quoi.
Thank you. Je remercie Caroline pour son combat. Je vais revenir les voir bientôt, sans micro, juste moi et les animaux. Le rêve. Je quitte le refuge, c'est la fin de ma traversée. Je suis émue, du chemin parcouru, de toutes les voix que j'ai entendues, chargées de leur histoire. Je retrace le fil dans ma tête, de Jacques le chasseur à Caroline, sans oublier Magali l'éleveuse, Romain Espinoza, Brigitte Gauthier, Aymeric Caron et Mauricio. Toutes ces personnes m'ont fait confiance et m'ont aidé à éclairer ma pensée. Sur la route du retour de Groingroing, je croise un camion rempli de cochons. Je sais où ils sont emmenés. J'arrête la voiture, prends une grande inspiration. Je ne pleure pas. J'ai vu au refuge qu'on pouvait agir, faire le bien. J'ai vu les animaux en liberté. Je sais que c'est possible. Ce camion me conforte dans ma bataille. J'ai désormais la conviction que la manière dont on traite les animaux définit en grande partie qui nous sommes. Elle montre les travers de l'humanité, nos limites. La cruauté, la violence, la haine ne s'arrêtent pas au mur des élevages intensifs ou des abattoirs. Elles poussent les portes des maisons, se diffusent dans la rue, les esprits. Ne les laissons pas gagner. Ce podcast était une manière d'agir. Il y en aura d'autres. Le combat continue. Un grand merci à Caroline pour sa confiance, à Brigitte Gauthier et à Aymeric Caron, mais aussi à Mauricio, à Magali, à Romain Espinoza. Anima, un podcast de Loulou Robert, réalisé par Vincent Deck.
Une création.
Blast.